pour communiquer avec les reines ou tu vois ou être sensible effectivement à la gentilité à la gentilité des légumes. Bon, on le dit de manière un peu ironique, mais c'est d'où ça peut venir la crédibilité de ces discours-là. Voilà, c'est quand même une question qu'il faut se poser parce qu'effectivement ça tient pas la route deux minutes et alors à la fois je sais moi bon de ce que tu dis c'est qu'effectivement c'est à la fois important de critiquer de démonter sur le fond alors Mouzy il était plutôt sur un registre de la satire lui peut-être qu'il faut les deux voilà c'est une question qu'on peut se poser mais on aura l'occasion d'y revenir.
C'était une réfutation sans ironie Vincent Rigoulet, Alexandra Bidet, Vivre sans produire, l'insoutenable légèreté des penseurs du vivant aux éditions du Croquant. On vous laisse, il est 20h30 et on se retrouve bien bientôt.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4 Bonsoir, vous êtes bien dans Musique en lutte sur Radio Libertaire. Et aujourd'hui, on reçoit le rappeur Irascible, donc un rappeur engagé depuis plusieurs années. Donc tu as sorti plusieurs EP et albums. T'as aussi fait pas mal de collaborations et des concerts sur des événements militants, comme des lives de soutien sur des ZAD, dans les manifs du 1er mai, ou plus récemment en soutien à la compagnie Jolimop, dont le théâtre La Belle Étoile est menacé d'expulsion, et aussi sur tout un tas d'autres événements. Donc pour commencer, je te propose de te présenter et de nous parler de ce qui t'a amené à faire du rap.
Bah, merci pour l'invitation déjà. Et puis, c'était déjà une belle présentation. Je sais pas trop ce que j'ai ajouté, mais effectivement, moi, c'est Irascible. J'ai fait différentes collaborations, notamment avec Debamix, où on a eu l'occasion de se retrouver tous les deux, entre autres. Maintenant, ça fait 10 ans. Qui est sorti mon premier EP, Des Illusions. Il était sorti en 2014, ça va faire 10 ans donc que je sors des choses, même si j'ai commencé à rapper un petit peu avant dans ma chambre quand j'étais adolescent. Mais je ne sais pas s'il y a une raison vraiment qui m'a poussé à faire du rap. C'est venu un peu spontanément, je pense parce que c'était la musique en vogue à ce moment-là et que ça m'a parlé, et que c'était un moyen d'expression accessible. Et voilà.
Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui? T'es entouré d'une équipe. Enfin, moi, je t'avais vu récemment en live à la Gare Expérimentale. Et il y avait un DJ maintenant qui venait avec toi.
Bah, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai été accompagné de ma clé USB. Et ça fait le taf, hein, mais bon, déjà ça donne plus de taf à l'ingénieur du son de la salle qui doit passer tes morceaux en plus de s'assurer que le son soit bien. Et ça, c'est limité quand même, parce que en live c'est bien de pouvoir rebondir, de pouvoir faire des cuts, de pouvoir voilà. Donc c'est vrai que maintenant je suis entouré de DJ, pas toujours les mêmes selon les dispos, mais voilà, en tout cas j'ai un DJ avec moi. D'ailleurs j'en profite pour passer un big up à Big Daddy The Jude et MJ Reboot, qui sont les deux DJ qui m'accompagnent selon leur dispo. Mais par contre, à part ça, donc ça fait des lives un peu plus intéressants, mais à part ça, pour ce qui est de la production, rien n'a vraiment changé. Je suis toujours en totale autoproduction. Depuis quelques années maintenant, j'arrive à être autonome au niveau de l'enregistrement, donc c'est moi qui fais mes prises de voix, mais après c'est à moi de démarcher toutes les étapes nécessaires à la construction d'un projet, comme tu connais bien, le mix, la pochette, les clips, etc., etc. Ça, c'est, il n'y a pas d'équipe là pour l'instant autour de ça, mais on arrive quand même à faire exister les projets, même en autoproduction.
Et du coup, autoproduction, c'est aussi sur les instrumentales. Du coup, c'est toi qui fais les beats sur lesquels tu poses, ou...
Certains, pas la majorité. Pour te donner un ordre d'idée, sur Omega, il y a à peu près la moitié qui est fait par mes soins. Sur le dernier là, qui s'appelle Fêlé, il y en a que 2/10 qui sont faits par mes soins. Sinon, c'est surtout des instrus que je vais choper sur internet, souvent des type beats dont j'achète les pistes pour faire un mix correct. Mais malgré le fait que je vais les glaner comme ça sur internet, j'essaye de faire une sélection qui fait qu'il y a quand même une certaine cohérence globale. Et pour ce qui est des instrus, de la minorité d'instrus que je fais moi-même sur lesquels je pose, je les fais sur FL Studio, souvent à partir d'un sample. Et voilà. Mais ça reste une minorité d'instrus. Parce que je suis avant tout rappeur avant d'être beatmaker, ouais. Mais je me débrouille suffisamment en beatmaking pour pouvoir faire des trucs assez propres, que j'estime assez propres pour poser dessus, du moins. Donc voilà.
Ouais, parce qu'on sent qu'il y a une cohérence dans les instrus, mais il y a aussi une évolution, je trouve. Sur les prods du début, c'était peut-être plus un peu du boom bap, comme on dit, classique. Et là, sur les derniers sons, il y a des trucs un peu rock, un peu punk, un peu aussi, parce que tu fais aussi des reprises, les covers exquis.
Ouais. Ben, en fait, c'est vrai que le dernier projet là, Fêlé, qui est un 10 titres, c'est très hybridé rap rock, en tout cas musicalement ça sonne un peu rock, un peu punk, et c'est abordé par contre de manière très rap dans moi, ma manière de poser dessus, contrairement à avant, comme tu disais, où effectivement c'était soit boom bap soit trap, en tout cas des styles très très identifiés et un peu des standards en fait du rap. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça plus intéressant et plus singulier de marier le rap, mon style, avec d'autres styles musicaux, d'autres horizons. Et je trouve que ça donnait quelque chose de plus intéressant que de faire quelque chose de plus classique qui me plaisait bien, mais que j'ai pu faire avant. Et voilà. Et Cover Exquis, que t'évoquais, ouais, c'était une série de reprises. J'avais fait 4 reprises, mais maintenant ça commence à dater. Ça allait de Porcherie, des Berrues, à de la chanson française, Boris Vian, le déserteur. Enfin voilà, le truc, c'était vraiment d'aller chercher des textes issus de comment dire de courants musicaux très éloignés, et justement de pas les toucher, de vraiment rester très fidèle au texte, et de les interpréter avec de manière très très rare. Donc là, sur des instrus vraiment très archétype, trap, etc. Et c'était ce grand écart que je trouvais intéressant. Donc pour le coup, là, c'était voulu de faire quelque chose de très rap, parce que ça contrastait avec le texte, en fait, qui était réapproprié.
Puisque tu parles des textes, du coup, nous, voilà, à Radio Libertaire et dans Musique en Lutte, c'est aussi tes textes qui nous ont beaucoup parlé. Voilà, est-ce que tu veux dire quelques mots sur tes textes? Enfin, je sais que c'est un peu dur de faire une rétrospective de tout ce que tu as fait et tout.
Ouais.
Moi, je sais qu'il y a un titre qui m'a particulièrement marqué, c'est celui Ni Dieu ni Maître avec l'Inconsolable.
Ouais.
Qui est vraiment super, je trouve, sur les lyrics, c'est bien pertinent.
Ouais, alors, c'est vrai que. Quand c'est pas des reprises, enfin j'en ai fait que 4, mais voilà, mais qui reprises qui sont cohérentes
oui, la
avec
plupart, c'est des toi
avec oui
textes.
Oui. Non, je précise pour ceux qui connaissent pas, mais mon univers, mais de toute façon même les reprises que je fais sont cohérentes avec mon univers, mais je pense que c'est un univers très raccord avec ce qu'on peut retrouver à Radio Libertaire entre autres, mais ouais un des textes qui sont souvent teintés de revendications sociales ou sociétales. Qui sont des thèmes qui me parlent aussi moi personnellement voilà au-delà de l'artistique quoi dans la vie de tous les jours et puis aussi des textes plus introspectifs qui sont peut-être plus universels et qui peuvent parler qui parlent de problématiques que tout à chacun rencontre quoi ça fait aussi partie de mon univers mais voilà après ouais t'évoquais l'album en commun que j'ai fait avec qu'on a fait avec l'Inconsolable et où effectivement il y a le morceau Ni Dieu ni Maître donc là on est à propos, on est à la maison. je sais pas comment est-ce que tu veux peut-être que je parle de ce morceau en particulier ou
non ou si t'as d'autres morceaux toi qui te paraissent forts dans ce que t'as fait ou niveau texte qui te représente le plus et
Alors je sais pas si c'est les textes qui me représentent le plus, mais je sais que l'un des morceaux, en tout cas le morceau qui est le clip qui est le plus vu et écouté sur Internet, c'est Antithèse, qui est un morceau qui joue avec les stéréotypes du rap et qui s'amuse de ses codes, qui les détourne, c'est un peu une critique de. J'en profite pour critiquer voilà une pensée très très libérale, très très capitaliste et aussi une pensée empreinte de domination sexiste. Voilà, d'où le titre Antithèse. Donc je sais que ça c'est un des morceaux souvent qui plaît le plus aux gens, qui est un peu représentatif aussi des thématiques que je peux aborder plus précisément dans chaque morceau. Voilà.
Oui, c'est clair que tu viens un peu clasher plein de stéréotypes, enfin ou en tout cas d'idées très véhiculées dans le rap, et tu viens un peu à contre-bourre de ça avec, je sais pas, notamment aussi le titre Gay Mafia.
Aussi, ouais.
Ça, on en reparlera.
Qui fait écho à un épisode de Rap et prise de position, voilà. Dont on va parler.
Exactement. Mais du coup, merci de me tendre la perche. On arrive au deuxième point de cette émission, c'est que en plus de tes vidéos et tes productions de rap, tu réalises des vidéos un peu documentaires, critiques sur le rap, qui s'appellent Rap et prise de position. Donc ce soir, on va parler d'une en particulier, enfin des trois dernières en particulier qui s'attaquent au rap complotisme. Et avant d'en parler, est-ce que tu peux peut-être un peu présenter comment t'es venue l'idée de faire ces vidéos Rap et prise de position?
Ça me trottait dans la tête depuis longtemps, mais j'osais pas forcément passer le pas, parce que tu vois, quand t'es rappeur, que tu fais des clips, que tu te dis pas forcément je vais faire un format YouTube ou je vais enregistrer une voix off que j'aurais écrit. Donc même si j'en avais l'envie, j'osais pas forcément, mais voilà, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Et j'en profite pour parler du déclic qui m'a fait passer le pas. C'est Léa donc qui est avec nous là ce soir qui m'a dit vas-y lance-toi voilà, c'est comme ça que ça m'est venu et que j'ai eu ce déclic parce que le rap c'est une musique que j'affectionne beaucoup, que j'ai écouté depuis l'adolescence, mais qui comment dire, dans sa globalité, on va dire, ou en tout cas, beaucoup d'acteurs ne véhiculent pas forcément les valeurs politiques qui me parlaient, politiques et ou éthiques qui me parlaient. Et du coup, j'ai souvent été un peu tiraillé entre un rap que j'affectionnais pour surtout pour la forme et parfois sur le fond mais pas partout, et voilà des idéaux qui rentraient un peu en contradiction. Et bah en fait, rapper prise de position, c'est un peu extérioriser cette contradiction interne qui se résout par de la réflexion, de la critique, voilà.
On peut peut-être parler, je crois qu'une des premières, enfin en tout cas moi, une des premières que j'ai vues, c'était le rap est-il de droite ?
Ouais, pourquoi rap est-il de droite ?
Pourquoi le rap est-il ?
Après moi je me prête au jeu aussi des titres un peu provocateurs,
ouais, bien sûr,
pour attirer l'attention, comme beaucoup font sur YouTube, pour après être un peu plus subtil dans le contenu. Mais effectivement, ouais, pourquoi le rap est-il de droite ? C'est la première que j'ai fait. Et qui est l'une, voire celle qui a le plus de succès à l'heure actuelle là, sur la chaîne. Enfin, succès relatif, mais voilà.
Est-ce que tu peux en parler un peu
Ouais, bah, en fait, dans cet épisode, je m'attardais sur le fait que dans le rap, il y a un peu, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'en fait, comme c'est un style musical qui est largement investi par les classes populaires, on aurait tendance comme ça à penser que, oui, ça véhicule des idées de gauche, etc. Mais en fait, quand on regarde un peu dans le détail des discours véhiculés, on se rend compte qu'il y a beaucoup de la promotion d'une pensée assez libérale, assez méritocratique. Et ça saute aux yeux quand il s'agit de ce qu'on appelle un peu vulgairement le rap game, quand il s'agit de Booba, ou voilà, là je sors vraiment des gros archétypes, voilà, ou vraiment clichés, où on pense aux rappeurs avec les chaînes en or et les grosses voitures. Bon, là ça semble évident. Mais en fait, même quand on regarde plus en détail dans chez des artistes qui peuvent apparaître aux yeux du grand public comme des rappeurs conscients, je mets des guillemets, je déteste ce terme, mais je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ça renvoie. Finalement, il y a aussi cette promotion de la méritocratie et cette idée cet idéal d'ascension sociale qui peut se comprendre. Parce que en fait, quand je pense on est en bas de l'échelle sociale, c'est pas une tare de vouloir la monter. Mais on a vu que dans d'autres styles musicaux, parfois l'idée c'est plus de justement renverser le système qui produit cette hiérarchisation sociale, plus que de vouloir monter cette hiérarchie justement. Et là, je fais écho à Kerry James ou à Akhenaton, qui chacun à leur manière appellent de leur vœu à ce que les jeunes issus des quartiers populaires deviennent des entrepreneurs et puissent grimper, puissent prendre leur part du gâteau. Et encore une fois, hein, je répète, c'est pas une tare, mais c'est juste que je pense qu'il est nécessaire de regarder plus en détail et de se rendre compte que c'est un leurre en fait, et que dans une société capitaliste ça peut pas faire partie de nos aspirations, parce qu'il y aura toujours un winner, un loser, comme on dit outre-Atlantique, et que moi personnellement, au vu des idéaux que je défends, c'est pas la société que je veux voir émerger. Et donc je trouve que ils se fourvoient. Bon, je parle de eux deux parce qu'ils font figure qui sont très identifiés par le grand public, mais c'est à l'image d'un esprit qu'on peut retrouver dans le rap. Et donc j'ai perdu le fil de ma phrase.
En tout cas,
je pense que c'était nécessaire d'avoir un regard critique là-dessus. D'autant plus que c'est une réalité qui saute pas forcément aux yeux. Et voilà, pour dire que c'est peut-être plus intéressant d'aspirer à autre chose et d'aspirer à un renversement, à une subversion de cette société, de cette société, plutôt qu'à désirer en gravir les échelons et en arriver en haut, quoi.
Est-ce que, enfin, moi je parle un peu extérieurement, je suis pas expert en rap, mais on a un peu l'impression qu'il y a, il y a un peu deux époques. Alors peut-être tu vas complètement me contredire là-dessus, mais un début qui était peut-être plus axé critique sociale, ou en tout cas qui appelait un renversement avec tout le film et la BO de Ma Cité va craquer, de Balle de Neg, Roots Neg, NTM et tout ça. Ouais. Et on a l'impression que, est-ce qu'il y a eu un virage après dans les années 2000 ou voire plus récente qui est majoritairement un rap assez capitaliste et qui prône le business avant tout ou pas, ou c'est une idée reçue de voir en deux.
C'est en partie vrai. Je pense que c'est en partie vrai. Parce que c'est vrai, bah t'as cité la BO de Ma Cité va craquer, qui est, je crois que c'est ma BO préférée en vrai dans le rap français, et qui est peut-être le projet de rap français le plus gauchiste, le projet de rap français pas fait par des gauchistes, le plus gauchiste de l'histoire du rap français. Et c'est en partie vrai qu'effectivement il y avait cette place pour la contestation sociale dans le discours des rappeurs, y compris mainstream, dans les années 90. Tu parlais d'NTM, effectivement, NTM, il y avait quand même un esprit très contestataire de l'ordre social, etc. Mais je pense qu'il faut pas non plus bercer d'illusions et se dire que voilà, il y a eu un âge d'or et que maintenant c'est plus le cas, parce que et puis aussi il y a toujours eu ces deux facettes du rap. Souvent les gens prennent pour exemple ces deux morceaux un peu fondateurs qui ont marqué le début du rap, un morceau de Sugar Hill Gang et un morceau de The Message de Grandmaster Flash, et donc qui sont deux morceaux, l'un de Sugar Hill Gang très festif et entertainment, etc., et The Message de Grandmaster Flash voilà, plus revendicatif, et du coup déjà qui sont sortis à peu près à la même période. Et souvent voilà, c'est intéressant de mettre en lumière ces deux morceaux, parce que en fait quand on remonte l'arbre généalogique du rap, ben on voit que même à la base il y avait déjà ces deux facettes qui existaient, et du coup ça relativise cette vision qui tendrait à nous faire penser que voilà, il y avait un âge d'or, une espèce de rap originel contestataire qui serait dévoyé ensuite par quelque chose de plus léger. En fait il se trouve que ces deux aspects étaient déjà présents à la base, quoi, et qu'en fait ils se sont juste déployés à travers l'histoire. Cet esprit libéral d'envie d'ascension sociale plus que de transformation sociale dont je parlais dans ma réponse précédente, je pense qu'elle était peut-être moins présente, mais elle était déjà présente dans les années 90, hein, je pense. Je pense que on a plus affaire à des exceptions qui confirment la règle, quand on pense à NTM par exemple, tu vois. Et par exemple IAM, dès le début ils ont un morceau où en gros peut-être que ça me reviendra le titre exact, mais au tout début de leur carrière ils ont un morceau où ils parlent de rentrer dans le système pour le changer de l'intérieur. Et tu vois, cette rhétorique elle fait sourire, parce que c'est, bon, de mon point de vue c'est assez naïf. Bon, ils ont l'air d'y croire encore, mais voilà, c'est cette idée que voilà, on n'affronte pas le système frontalement, on va le subvertir de l'intérieur, on va se faire un trou dedans, et puis là on pourra.
Il y a peut-être pas mal de rappeurs qui sont rentrés là-dedans, d'ailleurs même NTM, ils avaient un côté très on va renverser le système et créer autre chose, et aussi où finalement ils rentraient dedans à bien d'autres égards, quoi.
Bah, c'est sûr que par la force des choses, quand un groupe a du succès, bah, tout contestataire qui peut être sur la question du fond, et ben bah, il se trouve être en contradiction. Mais après moi j'essaye de pas trop m'attarder sur les parcours de vie des rappeurs, en tout cas dans Rap et Prise de Position, je pointe rarement du doigt ce genre de contradiction là.
Ah c'est oui, plus des tendances que tu
en fait je m'attarde vraiment au discours qui est véhiculé plus qu'à dire ah oui mais NTM vous vouliez renverser le système puis maintenant Cool Chain tu fais du poker bon, moi je trouve ça plus anecdotique, bon pourquoi pas, mais je trouve ça plus anecdotique, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière, c'est pas les contradictions entre le discours et la vie des personnes, ça peut être intéressant mais je trouve ça plus intéressant de m'arrêter au discours vraiment et de me focaliser uniquement là-dessus quoi. Mais après effectivement il y a des contradictions entre les postures et puis les vies des acteurs qui mettent qui ont ces postures là quoi.
Du coup ces vidéos rap et prise de position, elles sont super bien faites, très bien documentées, il y a plein d'images d'archives, c'est mixé, il y a des visuels assez léchés et toi le commentaire off très bien ficelé. Donc comment techniquement t'arrives à t'en sortir de tout ça, parce que ça doit être un gros taf.
Bah merci déjà. Et en fait il y a différentes phases dans la création. Déjà il y a une phase d'écriture où vraiment je mets de côté toutes les archives que je veux utiliser, j'écris, je rebondis dessus, etc. Ensuite, il y a une phase d'enregistrement où je lis tout simplement mon texte devant le micro sur Pro Tools. Voilà. Une phase de mixage très... ces projets-là, autant sur mes projets musicaux, je fais appel à un ingénieur son, etc. etc. Autant là, sur Rap et Prise de Position, c'est tout maison, c'est moi qui fais tout, qui suis à tous les postes. Et du coup, il y a une autre phase de mixage avec des gros guillemets parce que... je suis pas hyper compétent là-dessus, je mets un EQ basique, une compression comme je peux. Et puis après il y a une phase de montage où effectivement comme tu le disais, je vais aller piocher des images à droite à gauche pour habiller le tout en fait, et que ce soit agréable autant à écouter qu'à regarder, puisqu'on est sur YouTube et faut illustrer ses propos. Et un peu c'est ça les coulisses de la fabrication d'un épisode de Rap et Prise de Position. Et effectivement ça met du temps hein, toutes ces étapes là. On s'en rend pas forcément compte quand on a le produit fini devant les yeux, mais ouais ça met pas mal de temps, d'autant plus que je suis tout seul à faire tout ça à toutes les étapes. Mais voilà.
Méritocratie, investir, tel est ton idéal. T'as le style qui fait mal au son prolétariat. Quoi de plus conventionnel? T'as trahi la populace et pourtant tu plais à tous les parias. Che Guevara, Thomas Sankara sont morts, t'instaures de nouveaux revers. Tu dis des conneries comme un homme riche d'or, donc hors de question de se taire ou de te plaire. C'est catastrophique, tu ramasses ton fric comme un actionnaire. Mon rap est d'aspiration contestataire. Je veux que baisse d'un ton tous les réactionnaires. Ah bon? Révolution sexuelle uniquement pour les hommes. Une femme qui se respecte doit faire la vaisselle, se raser les aisselles, exécuter les ordres. Wow. C'est devenu ordinaire cette vision binaire de la féminité identique et pièce. Celle que t'appelles les tasses, ça fait capter les aspects de ta virilité. La vérité, c'est que t'es pas un héros et c'est pas toi que les types devraient admirer. Elles sont les guerrières de la cité, les mères, les sœurs, qui vous habitez. Allez-y vérifier. Mon rap est érigé pour les féministes de terrain, les destins déchirés, les homos de quartier, les clodos, du pavé, les losbos, qui rebref tout ce que vous dénigrez. Voici l'antithèse des rappeurs défenseurs de ce grand système. Kill, dégage en vitesse et avec moi lève le poing en Y. Voici l'antithèse des rappeurs défenseurs de ce grand système. Kill, dégage en vitesse et avec moi lève le poing en Y. Lève le poing en Y.
faire un flop. Faut parler d'utopie, de lutte du peuple et de culture hip-hop. Prendre le flow de Kenny, la rabia des poupées, l'antipop. J'ai l'antidote, un Martin Fossi, un Mike aussi, afin de caposser leur carrosserie. Et sachez que ça va chauffer car on s'associe à la chaussée, celle des manifs, celle des SDF et celle des captifs, celle des quartiers photographiés en négatif. Mais comment faire du rap en restant évasif? Je fais la diff, mais jamais vous me verrez les traiter de PD ou de fils de pute. Tout simplement parce que ce ne sont pas des insultes. Chez nous c'est le nom de Jacqueline. Tu peux voir où j'habite, tout savoir d'où j'arrive. D'un HLM avec ma mère, on l'a loué à Douvres. Des coups infligés à ton propre corps, affligeant. Moi, je vois les choses autrement. J'ose le dire et j'ose le ton. C'est l'avènement d'un autre temps. Car ira cibler prolétaire, ira cibler prolétaire, ira cibler prolétaire. On prend les propriétaires. Non, voilà pour te divertir. Communiste, autonome et libertaire. Ouais, moi ce qui me sidère, frère, c'est ces Cerber qu'on va vite faire taire. Voici l'antithèse des rappeurs défenseurs de ce grand système. Kill, dégage en vitesse et avec moi lève le poing en Y. Voici l'antithèse des rappeurs défenseurs de ce grand système. Kill, dégage en vitesse et avec moi lève le poing en Y.
Voilà, pour vous présenter la musique d'Irascible, nous venons d'écouter le morceau Antithèse de son album Omega, sorti en février 2020. Et maintenant, un autre de ses titres, s'intitulant Comment, et provenant de son dernier album Fêlé, sorti en avril 2023.
Comme un rappeur, scat comme un batteur, j'taffe comme un hacker, mat comme un tapeur, j'plane comme un voleur, j'trace comme un fraudeur, j'frappe comme un boxeur et j'rappe comme un rocker. Classe comme un casseur, j'rappe comme un croque, croix comme un majeur, j'rappe comme un clock, ça claque, claque, claque comme un rock, tu craques, craque, craque comme un proc. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte, croix comme un majeur, j'rappe comme un clock, ça claque, claque, claque comme un rock, tu craques. Crac, crac comme un proc. Je suis beau comme une verrue, petit agité comme les perrues. J'ai un prénom d'enfoiré comme la plupart des rues. Y'a ceux qui bossent dans tes buildings et ceux qui bossent dans tes grues. Depuis le début ma vérité pique comme un tox. Pas de mytho au micro, je kiffe comme un gosse. Tu triches comme un boss, on va te séquestrer. Comme le patron de Renault, tu vas peut-être y rester. Ça sonne comme un com-cogne à London ou Compton. Tire pas sur ton frère, tire sur ses grosses snobs. Comme Ghost Dog, l'arrêt martial, je suffoque. Car dans cette époque, l'air est glacial et sale. Incompris comme un artiste, pourtant j'envoie du lourd comme un bassiste. Je réfléchis comme un marxiste et j'agis comme un anarchiste. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Croix comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Crois comme un majeur, j'rappe comme un club. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc. Cette musique est addictive comme un tas de clopes. Comme je n'ai jamais monté, je ne crains pas le flop. Mes attaques choquent comme le black bloc. Votre monde brûle dans une fumée noire comme du plastoc. On est mastoc comme Stakhanov. On met Bruce Wayne et Clark Kent à la porte. Je suis Nasbrock, j'ai pas la cote. Ça fait 100 ans que j'attends mon tour comme à la poste. Tu crois avoir tout compris comme un conspi, mais t'es juste aliéné comme un conscrit. Au lieu de répéter tout ce que c'est concret, allons récupérer tout ce qu'ils nous ont pris. Comme un zombie, métro boulot bédodo. J'écris l'histoire de ta bêtise comme François Bégodeau. Les politiques nous visitent comme ils tiraient aux os. Je crains qu'ils veuillent faire un safari car c'est pas des rigolos. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Trois comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Trois comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc.
On en revient à notre troisième point, c'est que voilà, sur les, tu as fait une série d'émissions sur le rap et le complotisme. en 3 épisodes. Et donc, je pense qu'on va prendre le temps de s'attarder sur chacun des épisodes. Mm-hmm. Parce que, bon, c'est vrai qu'à Radio Liberté, on essaie de dénoncer les dérives complotistes aussi des milieux militants et en plus généralement des discours ambiants et qui peut y avoir aussi dans la musique, puisque là, on est dans Musique en lutte. Et donc dans la première émission, tu essaies un peu de revenir, alors on va parler en France, du rap français, mmh, quoi. Mmh. Tu essaies de revenir un peu sur les premiers artistes qui ont
émergé ces thématiques.
Voilà, notamment il y avait Rocking Squat d'Assassin, qui est un groupe, je pense qu'on a tous écouté et kiffé aussi.
Moi compris.
Voilà, toi compris, comme tu le dis dans la vidéo, très honnêtement. Et voilà, du coup, est-ce que tu peux un peu parler de ce premier volet?
Ouais, alors ce premier volet, effectivement, il a pour but de mettre en lumière les pionniers. De l'émergence de cette grille de lecture dans le rap français. Et tristement, effectivement, Rockin' Squat a fait partie de ces pionniers, si ce n'est le pionnier du rap complotiste en France. Malheureusement, parce que il y a de très bonnes choses dans sa discographie, notamment les disques d'Assassin, qui était hyper engagé, hyper justement dans empreint de contestation sociale et
qui est-ce ne que libertaire aussi sur
presque positions. Ouais et qui justement faisait partie de ces exceptions qui confirment la règle dont je parlais tout à l'heure et qui échappait justement à l'espèce de doxa libérale qui est souvent présente dans le rap. Super, aller réécouter Assassin. mais c'est vrai que Rockin' Squat en solo, il a beaucoup amené de thématiques et cette grille de lecture complotiste en parlant des Illuminati, en parlant de la franc-maçonnerie, mais de la franc-maçonnerie comme d'un groupe, d'un bloc homogène avec des dessins secrets et machiavéliques qu'il faut montrer dans l'ombre. Et puis, ce que je dis dans la vidéo, c'est que j'énumère pas tout, parce que ce serait trop long. Enfin, en fait, on pourrait faire ce que je dis dans la vidéo, on pourrait faire une chaîne YouTube consacrée entièrement qu'à détricoter absolument toutes les théories, parce que c'est un millefeuille en fait, hein, qui l'évoque. Mais du coup, je m'attache plus à mettre en lumière une grille de lecture, une façon d'appréhender le réel, plutôt que de détricoter un par un chacune des théories, quoi. Donc je cite aussi Missa qui est arrivé un petit peu après, mais qui était là dans les courants années 2000 et voilà.
Ouais, c'est le tournant de Rocking Squat, c'est les années 2000 pour toi.
Il me semble que les premières fois où on entend ce type de discours chez lui, c'est sur des projets solo qui arrivent courant 2000. Je suis pas sûr que, enfin, je pense que toute la décennie 90 est clean, si on peut parler en ces termes, idéologiquement clean. Et ouais, c'est à partir des années 2000 qu'il y a un basculement qui s'opère dans sa discographie.
Oui, du coup, on se demandait en off, là, on discutait un peu, et c'est la mouvance complotiste. Enfin, il y a toujours eu dans l'histoire cette tentation d'expliquer les choses par des complots. Et on peut prendre au 19e les protocoles des sages de Sion qui ont été repris à moult reprises et encore aujourd'hui. Est-ce que ce tournant d'Assassin dans les années 2000, il correspond à une évolution, peut-être l'accès à Internet et à l'extrême droite qui s'est emparé de cet outil?
Ouais, je pense qu'effectivement, c'est sans doute pas anodin si ce tournant chez Rockin' Squat il s'opère pendant les années 2000, parce que ça correspond aussi effectivement à Internet qui se démocratise de plus en plus et qui donne accès à toutes ces théories qui existaient déjà au préalable, comme tu l'as dit, mais qui, ouais, qui les rendent plus accessibles et presque mainstream, quoi. Et du coup, ouais, c'est sûr qu'il est pas devenu complotiste seul dans son coin, quoi. C'est aussi, ça témoigne d'une ère du temps. Et ouais, malheureusement, d'une émergence de ces théories par le biais d'Internet, quoi.
Mais est-ce que dans le rap des années 90, un peu dans le rap, dans les pionniers du rap français et tout ça, est-ce qu'il y avait déjà ce complotisme un peu palpable parce que je crois que tu l'évoques, enfin, je sais plus les artistes en question, mais que tu parles que déjà il y avait cette idée de complot, des francs-maçons qui...
Oui, alors... Honnêtement, tout au long des années 90, il n'y a pas vraiment eu de truc. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai écouté, il n'y a pas de truc foncièrement complotiste, en tout cas pas de la même façon et pas affirmé autant que ce qu'on a pu voir chez Squat courant 2000 ou chez d'autres pendant cette période-là et après. Mais effectivement, il peut y avoir un esprit. Bah après, c'est plus des clichés complotistes qui se retrouvent dans une phrase par-ci par-là. C'est vrai qu'à un moment donné, je fais référence à ça. Et dans les trois extraits que je mets pour étayer ce propos-là, il y a un extrait de MC Solar qui dans un morceau qui date des années 90 où il dit leur plan de carrière. Briser les barrières, être aussi large qu'un illuminé de Bavière, et du coup qui véhicule cette idée que bah voilà, les illuminés de Bavière, donc dit Illuminati et puissance de l'argent, bah c'est lié et que c'est voilà, c'est un archétype de richesse. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il le dit même en mode un peu ego trip, quoi, en mode les petits jeunes qui ont la dalle, et bah ils veulent être aussi large à comprendre, aussi friqué et aussi à l'aise qu'un illuminé de Bavière, comme si l'illuminé de Bavière, bah c'était l'archétype de la personne riche, quoi. Et du coup, bon, à part cette phrase qui reflète une espèce de comment dire, de poncif un petit peu, en fait, de cliché, et qui est balancé comme ça au milieu d'un morceau qui n'a rien de complotiste, quoi. C'est une phrase parmi les trentaines d'autres qu'il y a dans le morceau. À part ce genre de phrase, dans les années 90, il n'y a pas de morceau entier sur « on va vous expliquer que les maîtres du monde ». Voilà. Voilà. Donc, je pense que, ouais, c'est vraiment courant 2000 que cette grille de lecture, elle explose, quoi. Avant, c'est plus anecdotique.
Et là, on en vient du coup au deuxième volet. Donc, c'est une vidéo sur la rappeuse Kenny Arcana, quand même bien connu dans les mouvements militants, altermondialistes, qui a été et qui est encore beaucoup joué en manifestation, dans les événements militants, qui s'est illustré notamment avec un titre qui s'appelait La rage du peuple.
Son classique.
On a beaucoup kiffé, hein, qui nous a tous marqués, je pense, ouais. Et puis qui a été très connu, quoi, popularisé. Ouais. Donc,
c'est un hymne, hein, par la force, ouais, des choses, dans les milieux militants, c'est devenu un hymne. Hein.
Beaucoup de gens, je pense, ont été surpris de voir ta vidéo sur Kenny Arcana. Et en quoi, pour toi, elle a dérivé dans dans le complotisme, quoi.
Alors, je sais pas si elle a dérivé, parce que je pense que de tout temps et à tout moment, même au début de sa carrière, il y avait la présence de ce genre de phrases. Et malheureusement, même jusque dans le morceau La Rage, il y a cette idée que voilà, les puissants, ils sont pas puissants vis-à-vis d'un statut social, enfin uniquement vis-à-vis d'un statut social ou d'un pouvoir politique, mais en fait, ce statut et ce pouvoir, il l'obtiendrait par le biais d'un savoir secret qui serait transmis de génération en génération, qui serait peut-être même présent depuis l'Antiquité. Donc voilà, une pensée assez mystique et qui explique les dominations par ce biais-là. Et du coup, même dans La Rage, qui est issue du projet Entre Simon et Belle Étoile, qui est sorti en 2005, si je ne me trompe pas, et qui était son premier album solo, il y a déjà ce genre de phrase, ou même dans d'autres chansons.
C'était déjà là dès le début.
C'était déjà là dès le début et dans d'autres morceaux du même projet, donc à savoir son premier album, il y avait à plus haute échelle, je dirais, Illuminati contre l'homme. Enfin bref, c'était déjà emprunt. Après, c'est vrai que Kenny Arcana, j'ai voulu faire une vidéo à part. Parce que c'est par ailleurs un artiste que j'affectionne et c'est ça, c'est très, j'ai conscience que c'est très ambivalent, mais en fait, bah comme on l'évoquait, c'est il y a des morceaux qui sont devenus des hymnes de manif et c'est une artiste qui peut être très intéressante sur plein d'autres aspects, qui parle du Chiapas, du zapatisme, qui parle beaucoup du mouvement altermondialiste, bah qui a aussi marqué les années 2000, des contre-sommets, etc. Et qui a un discours, une grande partie de son discours qui est anticapitaliste, même si, à mon sens, il est dévoyé par cette vision-là que j'évoquais, très mystique, très complotiste, et qui simplifie les choses et qui biaise un peu la lutte. Mais du coup, je me suis efforcé dans la vidéo, et j'espère que je l'ai bien fait comprendre, en tout cas moi c'était mon intention, que je voulais pas tout jeter à la poubelle, que je voulais faire une critique, je trouve pas le mot.
Fine.
Ouais, fine, équilibrée quoi. De en tout cas voilà, pas tout jeter et lui reconnaître aussi des qualités. Par contre, effectivement, tout le monde n'a pas compris ça. Parce que, effectivement, non, tu parlais des commentaires et des réactions.
Oui, t'as été assez attaqué.
Ouais, c'est une des vidéos qui est la plus clivante, mais je m'y attendais. Du coup, oui, effectivement, beaucoup de gens ont exprimé leur désaccord plus ou moins, de manière plus ou moins virulente dans les commentaires. Après, bon, tout est relatif. J'ai l'impression que les gens ils sont plus enclins à formuler des critiques négatives que positives. Et tu vois, aujourd'hui, la vidéo, je sais que c'est plus... c'est la politique de YouTube a changé là-dessus et du coup on voit plus le ratio pouce le ratio like dislike est plus visible, il y a plus que les créateurs de contenu qui voient de l'intérieur, et je crois que j'avais regardé il y a encore je crois de tête encore plus de 85% de likes. Donc bon, tout est
après,
relatif,
c'est aussi ton public et les gens qui te suivent qui sont plus enclin à comprendre ce discours et...
Oui, je pense que c'est sûr que si cette vidéo elle avait tourné dans d'autres cercles, peut-être que le ratio serait complètement inversé. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Je pense que c'est une artiste qui a cette force qui est de fédérer un public qui est très investi, même émotionnellement. Et du coup, quand je viens égratigner la surface de cet artiste, bah ça, ce que je peux comprendre, ça fait pas plaisir quoi, sur quand tu aimes vraiment une artiste que moi aussi j'ai aimé et que je continue à aimer, parce que je dis que par ailleurs c'est une très, enfin que je considère que c'est une très bonne rappeuse, et voilà, je suis le premier à qui ça fait chier, hein. Mais je pense qu'on peut pas faire l'autruche et qu'on peut pas se voiler la face et faire comme si il y a rien à voir circuler quoi, d'autant plus que avec la crise sanitaire ces points de vue se sont encore plus affirmés dans ce sens-là.
C'est là où elle s'est un peu illustrée en dénonçant presque un génocide dans les maisons de retraite, ouais. Et tout ce qui c'était quand même le discours de l'extrême droite et aussi d'une partie de l'extrême gauche aussi, hein, qui voyait comme une dictature, même si on peut rester très critique sur la gestion de la crise par le gouvernement, mais peut-être qui ont vu facilement un complot.
Oui, en fait, c'est vrai que même 10 ans avant ça, elle parlait. Il y avait déjà cette défiance vis-à-vis de la médecine moderne et même de la science moderne en règle générale, parce qu'elle est très empreinte de spiritualité New Age. Et Et déjà, il y a 10 ans, avant la crise Covid, elle parlait de puces, de nanopuces qu'on mettrait dans les vaccins, peut-être pour modifier les états psychiques des gens à l'aide de fréquences. Donc ça rejoint totalement cette théorie du complot qu'il y avait eu avec l'activation de puces qui étaient présentes dans le vaccin à travers la 5G et tout. Enfin, ça rejoint ce narratif-là. Et même, ça encourage les complotistes à se dire « Oh putain, mais elle le disait déjà il y a 10 ans avant, donc finalement c'est presque, il y a presque
la prophétie,
il y a presque un aspect, il y a presque un aspect prophétique, ouais. Quoi, tout s'emboîte avec tout, c'est magique, c'est magnifique, tu vois.
Ce qui est étonnant quand même de sa part dans son engagement à l'extrême gauche et tout, parce que c'est quand même des théories qui ont été majoritairement portées, du moins sur internet et tout ça, par l'extrême droite.
Carrément, c'est ça le grand paradoxe, et c'est ça qui, j'essaie, moi je me suis efforcé dans ces 3 épisodes à démontrer qu'il y avait une connivence entre ces théories-là et l'extrême droite, et que malheureusement, beaucoup de complotistes qui souscrivent à ces théories n'ont pas un mauvais fond, ont plutôt même une sensibilité de gauche pour certains, sont sensibles aux inégalités, sensibles à l'exploitation, etc. Et sans se rendre compte, se tombent dans des grilles de lecture propres à l'extrême droite et en viennent à militer aux côtés de militants d'extrême droite. Kenny, je mets en avant le fait, enfin je mets en évidence le fait que elle a manifesté dans une manifestation à Marseille anti-vax aux côtés de Salim Laibi, dit le libre penseur, qui a été pendant beaucoup de temps proche d'Alain Soral. Bon, maintenant ils se font la guéguerre, ils se sont embrouillés, mais bon, j'ai l'impression que la moitié des personnes qui ont fréquenté Alain Soral finissent par être en conflit avec lui. Mais en tout cas, bon, il est pas en conflit avec lui parce que ses idées auraient changé. Donc voilà, ça l'a fait militer aux côtés de ce genre de personnage, malheureusement. Et on l'aime, mais on aime toute une partie de sa discographie. Mais bon, il faut quand même ouvrir les yeux là-dessus, quoi. Malheureusement, et arriver à faire la part des choses.
Et maintenant, marquons une courte pause musicale en écoutant le morceau de Dubamix en featuring avec Stratégie de Paix et L'Inconsolable. Le morceau s'intitule Foutaise.
Certains disent que la terre est plate. Pff, que veux-tu que je réponde à ça? Si seulement ce monde pouvait s'analyser simplement, s'il suffisait d'un argument pour combler tous nos questionnements. Si c'était si facile qu'une seule famille décidait, tous les autres s'en prendraient au système et le décimeraient. S'il suffisait d'irrir pour cibler ceux qui dirigent, s'il y avait qu'à plaquer une théorie rigide. Si les attentats n'étaient que des scènes de films montées, les familles victimes n'auraient pas eu ce vide à combler. Mais hélas, tout est faux, tout est fable, et les faves de tous bords déforment les faits, les stats. Au-delà des mensonges dangereux, leurs projets, dans le fond, une porte en est aucun progrès. Doit-on tenter d'en convaincre certains, ou chercher à les brusquer? Pour l'instant, ils gagnent du terrain, mais comment les faire reculer? Ils sont nos ennemis, comment les faire reculer? Comment les faire reculer? Ils sont nos ennemis, comment les combattre? Ils sont nos ennemis, nous allons les faire reculer.
Illuminati, franc-maçon, hors notre genre reptilien, concocteur est un plan d'action pour faire venir les Syriens. Et toutes sortes de migrants masse sombrés seront en nous remplacer, prendre d'assaut notre si grande nation. Ces gens ne viennent pas en avion, se planquent discrètement dans le camion, ne disposent pas d'argent de taf, non. Heureusement, la France y a bon. Internet explique bien via plein de tas de gens pas cons. Tout ça se décide bien en amont par les hommes puissants qui ont le bras long. C'est le branle-bas de combat qu'on se le dit. Ces gens savent donc prédisent des hordes de musulmans de façon nous grands remplaceront. C'est donc le grand patron, le vice. Ils ont la plombe venir sûrement parce qu'on les y encourage vu que ça arrange Macron. Internet en parle donc. J'ai nous dit qu'ils nous enchassons, que ça ne sera probablement pas long. Tout ça ne tourne vraiment pas rond.
Personnellement, je crois qu'on cherche dans ces thèses en carton une explication pas compliquée au fait que nous en bavons. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moule thèse qui toutes pèsent et fond. L'audience vous laisse de tout fait, conclut que les débats sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein nous fond l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus qu'on clôtit toute presse et sous le couperet tout fait. Et donc, faut achouter les déroutés de l'info à qui plaît le complot. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moule thèse qui toutes pèsent et fond. L'audience vous laisse de tout fait, conclut que les débats sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein nous fond l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus qu'on clôtit toute presse et sous le couperet tout fait. Et donc, faut achouter les déroutés de l'info à qui plaît le complot.
Quelques familles juives de banquiers ont une grande visibilité au XIXe siècle. C'est le cas des Rothschild. Certains textes, à gauche comme à droite à l'époque, mettent l'accent sur cela, alors que ce n'est qu'une très petite minorité. L'immense majorité des juifs, notamment en Europe centrale et en Russie, sont des gens extrêmement pauvres.
Bonsoir, et du coup, moi, je voulais savoir comment t'arrives à allier les deux, à adorer la technique, du coup, l'instru d'un morceau, et quand t'écoutes les paroles, tu te dis, bon, là, j'avoue, ils ont vraiment déconné en termes de théorie du complot et tout, mais bon, personnellement, je trouve qu'il y a un petit côté, des fois, plaisir coupable, via le flow, via l'instru, via tout ça, on va dire, en tant que passionné de rap.
Ouais, bah, ça fait écho à ce que je disais au tout début de l'interview. C'est en partie pour ça que j'aime beaucoup le rap américain aussi, parce que je suis très peu anglophone et que du coup, je peux écouter tout et n'importe quoi et il y a que le flow et l'instru qui me parvient. Blague à part, bien que ce soit pas totalement une, effectivement, ça m'arrive beaucoup d'écouter des artistes uniquement uniquement pour la forme et de kiffer le flow, de kiffer les schémas de rime, l'instru, machin, comme tu disais, et de pas du tout souscrire au discours véhiculé. Et l'archétype de ça, au-delà de l'aspect complotiste, je l'évoque dans une autre de mes vidéos sur la section d'assaut, où j'ai beaucoup écouté la section d'assaut quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, hein, je continue à écouter certains morceaux du début de leur carrière, avant que ce soit très pop, parce que en fait, beaucoup de gens connaissent la section d'assaut pour les morceaux très pop, mais en fait, il y a des projets plus vieux où ça kick vraiment, ça kick bien, notamment Le Fa, qui est un de mes rappeurs préférés sur le plan de la forme. Et il y a cette contradiction interne qui s'opère parfaitement dans mon cerveau et qui a l'image parfaite, enfin qui illustre parfaitement ta question, où putain c'est un rap trop bien, mais putain mais qu'est-ce qu'ils sont homophobes tu vois, et malheureusement ouais c'est comme ça je sais pas quoi dire. Et après sur Kenny, en fait Kenny c'est encore un peu plus complexe parce que parfois ça fait ça. Mais parfois, par ailleurs, elle dit des bêtes de trucs. Donc, parfois, on peut aligner ses chakras.
Non, mais... C'est comme une partie de la gauche, quoi, parfois. Ouais.
Par exemple. Non, mais oui, il y a des morceaux entiers ou des couplets entiers de Kenny Arcana où on peut y aller les yeux fermés. Enfin, on peut y aller, ça veut rien dire dans l'absolu, mais en tout cas, vis-à-vis de moi, ma sensibilité politique, j'y vais les yeux fermés et je trouve que tout est raccord. J'aime autant le fond que la forme et parfois il y a des hors-pistes, quoi.
Justement, du coup, ça nous mène peut-être au troisième volet de ces vidéos sur le rap et le complotisme, où tu évoques un peu plus la nouvelle génération, enfin, ou en tout cas d'autres rappeurs peut-être un peu plus médiatisés aujourd'hui. Et bah, tu parlais de la section d'assaut, il y a notamment Maître Gims qui est venu aussi s'illustrer
électricien
lui avec les pyramides enfin peut-être tu peux rappeler le
oui,
la polémique.
Il y avait une polémique déclenchée par Gims qui dans un média avait émis l'idée que en fait les Égyptiens de l'Égypte antique les Égyptiens de l'Antiquité maîtrisaient l'électricité. Et il étayait son propos en disant qu'au sommet des pyramides, il y avait de l'or et que c'était le meilleur conducteur pour l'électricité.
Très fort.
Et donc, non seulement il dit ça, qui est une théorie très peu... très peu étayé par les experts sérieux, les historiens, les archéologues
mais
sérieux.
Néanmoins diffusé sur les internets.
Donc il a dit ça et puis non seulement il a dit ça mais il a aussi dit que les historiens le savent.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est ça qui teinte le discours de complotisme. Parce qu'encore, ils diraient, ouais, voilà, ils avaient l'électricité et personne le sait. Et faudrait qu'on travaille dessus. Mais tout le monde se fourvoie dans des recherches et croit qu'en fait, ils étaient moins avancés qu'ils ne l'étaient vraiment. Bon, ce serait juste délirant. Mais à partir du moment où il dit, et les historiens le savent.
Et bah, après, il l'a justifié.
Là, on rentre dans le complot. Parce que ça veut dire qu'en fait, on le sait et on nous le dit pas. Donc c'est ça qui donne l'aspect. Et excuse-moi, ouais, j'ai peut-être pas vu après qu'il l'ait justifié.
Bah
c'est...
après il est revenu, il a été interviewé.
Ah sur un plateau télé,
ouais,
oui, j'ai
voilà,
vu la séquence.
Il a essayé de s'en sortir tant bien que mal, mais il n'a pas renié ce qu'il disait. Quoi.
C'est vrai que j'ai
c'était un peu un truc un savoir occulte.
J'ai vu cette séquence où c'est sur un. Enfin, je sais pas si on a vu la même. Moi, j'ai vu une interview sur un plateau télé où on lui dit de revenir sur la polémique et où il dit pas ouais non c'est vrai. Je me suis rendu compte que bon c'était un peu des conneries, d'autant plus que cette séquence, elle a eu un mérite, c'est qu'elle a pu donner lieu à énormément de débunkages super intéressants de la part de gens qui vulgarisent l'histoire sur YouTube et ailleurs. Donc bon, si ça a eu ce mérite, au moins c'est cool. Mais j'imagine qu'au moins un de ces débunkages lui est parvenu et il aurait pu se rendre compte que bon, effectivement, c'est un peu n'importe quoi de dire qu'à l'Antiquité, ils maîtrisaient l'électricité, etc. Mais après, là où je comprends, enfin, je comprends. C'est particulier. En fait, je pense que sa démarche à lui. Et le fait qu'ils disent ça, ça prend racine dans une grande frustration aussi et dans une grande injustice. C'est-à-dire que, en fait, ces excès-là qui veulent prêter à l'Égypte antique une avancée technologique complètement délirante par rapport à l'époque, c'est aussi, j'imagine, un moyen de répondre à toute une histoire coloniale où pendant longtemps des historiens ont décrit le continent africain comme un continent arriéré qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas de grande civilisation et une Europe qui au contraire est une Europe de la raison, une Europe des sciences et qui domine par rapport à ce continent. Et
malheureusement, il aurait pu prendre bien des faits historiques sur toute l'histoire de l'Afrique.
En fait, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas besoin de dire que les Égyptiens avaient l'électricité pour contredire ce discours colonial. Jusqu'à ce genre de délire, on peut très bien parler de l'Égypte antique pour ce qu'elle était, ou même d'autres grandes civilisations du continent africain, et ça suffit à démonter cet argumentaire. Mais en fait, cet argumentaire, il a tellement été hégémonique pendant longtemps, et encore. Il y a peu de temps, Nicolas Sarkozy, quand il était encore président, avait fait un discours à Dakar où il disait que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, etc. Et tout ça, ça marque tout ça. Enfin, ça, voilà. Donc, c'est violent en fait. Ça ne justifie pas qu'on rentre dans des délires tel que Maître Gims, mais je pense que ça peut nous aider à comprendre comment on en arrive à, qu'est-ce qui motive ce genre de délire, quoi.
Après, c'est vrai que les Égyptiens et le savoir de cette époque, c'est quelque chose qui mobilise aussi fortement les milieux complotistes.
Oui, oui.
Et là, je parlais. C'est pas forcément des gens qui ont des raisons de lutter contre colonialiste et bien la sûr. Réécriture de l'histoire, quoi.
Bien sûr. Là, je parlais vraiment du cas spécifique de Gims parce que si tu regardes, parce qu'il y a beaucoup cet extrait qui a tourné. Mais si tu regardes toute la séquence, enfin, de l'interview, oui, ouais. Ça prend racine dans ce narratif-là, ouais. Où il dit oui, mais l'Afrique elle est grande, etc., etc. Et nous les Noirs, on peut être fiers. Et là, il sort cette dinguerie. Donc en fait, cette dinguerie, elle est contenue dans ce narratif-là. Et même quelqu'un, tu vois, comme je trouve ça assez naze d'avoir surfer là-dessus, mais Ramayad, elle est allée jusqu'à soutenir Gims en jouant un jeu d'équilibriste en disant oui voilà bon et en faisant comprendre que bon elle souscrivait pas à la théorie mais que quand même on a des raisons d'être fier que tu vois c'était un peu casse-gueule mais ça atteste enfin comment dire ça étaye le fait qu'il y a tout ce passif là qui dans son cas à lui pas dans le cas de tous ceux qui voient des trucs complètement délirants sur cette civilisation c'est nourri par ça et c'est nourri par de la frustration et par une histoire raciste quoi des sciences et de l'histoire malheureusement ça justifie rien hein, ça explique un contexte quoi.
Ouais, après il y a des rappeurs qui ont fait ça très bien, je pense à Rootsnake qui ont parlé un peu de l'histoire africaine de manière peut-être plus intéressante et plus détaillée historiquement.
Bah encore une fois, ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas besoin de leur prêter ni électricité.
Il y a des faits aussi qui sont...
Oui, voilà, il y a des... Donc, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour redorer le blason du continent africain. Quoi. Donc,
C'est ça. Bah, du coup, on va avancer dans l'émission parce que il y a aussi... ça fait un peu changement de sujet, mais c'est dans les rappeurs quand même très en vogue et très écoutés. Fris Corleone, qui... alors, on sait qu'il y a eu plusieurs sorties quand même antisémites dans le rap auparavant, mais là, c'est quand même assez du costaud, quoi. C'est-à-dire qu'il se revendique quand même des nazis, d'Hitler, rien à foutre de la Shoah. Il est quand même... il a été adoubé, relayé par des gars assez craignos de l'extrême droite quand même, tels que Alain Soral ou Kémy Séba et sa réécriture de l'histoire. Donc peut-être, est-ce que tu peux présenter ce rappeur et les gens aussi qui l'ont relayé là?
Oui, bah, du coup le troisième volet de mes vidéos là, sur le complotisme est pratique, enfin, en tout cas en grande partie consacré à Fris Corleone, qui vraiment, alors on a déjà entendu, comme tu disais, des phrases complotistes, des phrases non seulement complotistes, mais aussi antisémites dans le rap français à droite à gauche, mais lui, vraiment, c'est un cas d'école, c'est une constante dans sa discographie.
Et il est soutenu en plus.
Et il est soutenu, et c'est très trash. Et oui, et c'est ça qui est malheureux, c'est que non seulement il est soutenu par des personnages très sulfureux comme Alain Soral ou comme Kémy Séba, comme tu évoquais. Et ça, bon, on pouvait s'y attendre.
Mais aussi Booba, je crois, ou je sais plus.
C'est possible, mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ces genres de figures, on pouvait s'y attendre. Mais malheureusement, il est aussi soutenu par le milieu du rap, ou alors soit on se tait, dans le meilleur des cas, bon, ils disent rien. Puis dans le pire, ils disent « Ah, Fris Corleone, soutien, etc. » Et puis, par le public aussi, parce que c'est pas anecdotique, quoi. C'est un des plus gros vendeurs de ces dernières années. C'est une tête d'affiche, quoi. C'est pas... Donc, ça fait froid dans le dos. Donc voilà. Et beaucoup de gens, parmi les soit des médias ou son public, tendent à relativiser ses propos en disant que bah en fait c'est que de la, comment dire, de la provocation, que en fait il veut juste mettre en avant un deux poids deux mesures, que voilà, bah comme on parle pas assez de la traite négrière ou du génocide des natifs américains et qu'on parle que des juifs, et ben voilà, il veut dénoncer ça avec de la provocation, nanana, c'est ça le comment dire, l'argumentaire de ceux qui le défendent, sauf que ça tient pas. Parce que bon, même avec cette grille de lecture, ses propos restent abjects. En fait, il n'y a rien qui justifie qu'on dise rien à foutre de la Shoah ou j'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30 et j'en passe. Il n'y a rien qui justifie ça. Et en plus de ça, quand tu te plonges vraiment dans son univers, tu te rends compte que c'est pas que dénoncer un potentiel de poids de mesure qui l'intéresse. C'est son rap, il est vraiment emprunt de toute une grille de lecture complotiste qui se marie à la perfection avec l'antisémitisme. Et d'ailleurs, tu parlais de Kémy Séba qui l'a soutenu, non seulement il l'a soutenu, mais il a dit aussi dans l'extrait de l'interview que je passe dans l'épisode que il y a plusieurs années Frisk Orleans venait à Dakar à ses conférences et lui offrait ses CD. Donc il y a vraiment une filiation idéologique évidente, quoi. C'est là que prend racine son rap et ses convictions. C'est pas juste comme ça de la provoque gratuite, quoi. C'est ce que j'essaye de mettre en évidence dans l'épisode, en tout cas.
Est-ce que tu crois qu'il y a toujours eu un antisémitisme latent dans le rap, ou est-ce que ça, l'ascension de Frisk Orleans correspond à une montée de l'antisémitisme en général aujourd'hui?
Il y a toujours eu de l'antisémitisme dans le rap au même titre qu'il y en a eu dans la société aussi, quoi. Après, c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un artiste rap dans le rap français qui en fait autant son cheval de bataille, quoi. Et qui fait référence de manière aussi explicite et aussi répétée. C'est un peu le Dieudonné du rap français, quoi. C'est un peu l'équivalent pour le rap français de ce que Dieudo incarne pour l'humour, quoi. Je sais pas si ça témoigne d'une avancée de l'antisémitisme. Je sais pas, faudrait voir les chiffres, voilà. Mais en tout cas, c'est inquiétant et effectivement cette obsession fait sa spécificité, quoi. Enfin, tant mieux qu'on en ait qu'un, mais c'est toujours un de trop. Mais en tout cas, ouais, voilà, lui, c'est vraiment un cas d'école, comme je disais.
Mais genre, pour un peu finir sur ces vidéos, c'est vrai que, enfin, moi, ce que je trouve marquant, c'est qu'on a l'impression que, en fait, l'imaginaire qui s'en dégage, ça serait que c'est des groupes obscurs qui tireraient les ficelles de toutes les institutions internationales et qui seraient opaques et occultes et sur lesquelles on n'aurait aucune influence. Et je me dis que c'est un peu ce qui peut paralyser aussi d'emblée tout engagement politique, puisque ça voudrait dire qu'on pourrait rien y faire, qu'on n'aurait aucun impact là-dessus, parce que les gens ont tellement de pouvoir, ce pouvoir occulte, et du coup qui empêche aussi toute analyse de classe et de s'interroger sur les vrais rapports de domination et les inégalités.
Ouais, bah c'est ce que j'essaye aussi de mettre en évidence, c'est que, comme tu l'as très bien dit dans ta question, cette grille de lecture complotiste, non seulement elle simplifie les rapports de domination en s'arrêtant sur une grande famille, les Rothschild ou alors les Juifs, et voilà, en fait qui trouve une explication monocausale à absolument tous les problèmes du monde et à la domination sociale et économique. Et c'est une analyse qui est, en plus de potentiellement discriminante, comme on l'a vu avec l'obsession antisémite, en plus de ça, est simpliste, quoi. Et comme tu le dis, peut potentiellement encourager les complotistes à être dans l'immobilisme et à se dire, bah, de toute façon, tout est niqué, quoi. Ils contrôlent tout autour de nous, rien n'est possible. Et ça, c'est un gâchis. Parce qu'en fait, parmi les complotistes, comme je disais, il n'y a pas que des gens de mauvaise volonté ou foncièrement mauvais. Il y a des gens, même des gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche et qui pourraient être des camarades s'il n'y avait pas autant ce déficit de culture militante.
Et du coup, j'aurais une dernière question. Est-ce que tu aurais plusieurs artistes de rap à nous proposer qui soient un peu plus subversifs et qui soient militants aussi, quoi?
Ouais, bah tu fais bien de poser la question parce que justement c'est il y a un travers dans lequel je veux pas tomber avec mes vidéos rap et prises de position, c'est de laisser penser que le rap c'est par essence et de manière globale une culture où il y aurait tout acheté alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup notamment sur la question du complotisme dans le premier volet de cette série de vidéos, j'en profite pour mettre en lumière un morceau super d'un artiste qui s'appelle Iwan, que vous avez peut-être déjà pu connaître dans le groupe Première Ligne, par exemple, et qui a fait un morceau qui s'appelle Les Pharaons, et où justement il se joue de ces codes complotistes pour mieux les déconstruire, donc je vous invite à aller écouter le morceau. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi tu parlais de, on parlait de Bami qui est un ami en commun d'Aman. Il y a un morceau de Stratégie de paix, L'Inconsolable et Debamix qui parle du même sujet aussi. Donc voilà, il y a plein d'acteurs au sein du rap français qui prennent à contre-pied ce discours et qui opposent une lecture de lutte des classes et de lutte sociale virulente et bien plus rationaliste et bien plus conséquente que cette grille de lecture complotiste qu'ils n'hésitent pas à déconstruire. Donc ça c'est super. Donc allez écouter tout ça. Et plus largement, moi dans le premier épisode que t'évoquais, qui s'appelle « Pourquoi le rap est-il de droite ?», justement, à la fin, je dis oui, mais il existe aussi une scène qui, certes, est minoritaire, certes, est une niche, mais au sein de laquelle on peut retrouver des discours communistes, anarchistes, antifa, autonomes, et du coup, j'en profite pour citer plein d'artistes. Donc, j'ai déjà évoqué Iwan Scalpel de Première Ligne, L'Inconsolable, je parle aussi de La Canaille, je parle aussi de Zippo, je parle aussi de plein de ratures de Duval MC, enfin bref là je sais pas, peut-être que j'ai oublié certains qui étaient présents dans la liste. De toute façon, ce sera l'occasion pour vous d'aller sur YouTube et d'aller regarder la vidéo Pourquoi le rap est-il de droite, mais voilà, j'essaye de mettre en lumière mes collègues en fait, hein, de cette scène, de cette niche, mais qui a le mérite d'exister et de porter un discours à contre-courant de plein de choses qu'on peut retrouver dans le rap.
Bon, bah merci beaucoup pour cette interview, et on se demandait quels étaient tes projets à venir, que ça soit les vidéos rap prises de position ou des EP à sortir, albums, ou les concerts aussi, l'actu irascible.
Ouais, bah déjà encore merci pour l'invitation. Et alors je peux pas donner de date, mais effectivement là je suis sur la création d'un autre épisode de Rap et Prise de Position. J'ai fini de l'écrire, j'ai fini de l'enregistrer, il reste tout le montage à faire, et du coup c'est un épisode où je vais pas mal m'attarder sur la thématique du racisme, et je vais en profiter du coup pour parler du rap d'extrême droite, parce que le rap d'extrême droite existe de nos jours. Et du coup, voilà, je m'attarderai pas mal sur ces thématiques-là dans le prochain épisode de Rap et Prise de Position. Et sinon, musicalement, il y a sans doute un 6 ou 7 titres qui devraient sortir, j'espère, dans pas trop longtemps. Mais comme je l'expliquais, l'autoproduction, ça prend du temps. Et donc voilà, sous peu, un prochain projet aussi, sans doute après, encore un peu après cet épisode. Et voilà, des concerts, là j'ai plus sous la main, mais allez checker l'Instagram irascible-musique et vous aurez les infos. Voilà.
Ok, merci à toi.
Merci.
Voilà, c'était notre entretien avec Irascible. Et maintenant, avant de clôturer l'émission avec nos dernières rubriques, écoutons le morceau dont nous parlions juste avant. C'est Iwan avec son titre « Les Pharaons ».
Dieu, ils ne leur servaient plus à rien. Retour à l'ère des pharaons. Zeus et Issa devenus larbins. Nassés comme deux vulgaires canassons. Faites place aux plus viciés des larcins. Les cracks boursiers, les stocks options. Ils ont pas prévu de passer la main. Prosternez-vous, tout le monde à genoux, c'est les pharaons. Pas de reptiles, pas de pyramides. Les pharaons, pas de complot, rien de satanique, mec. C'est les pharaons, l'argent, le pouvoir. C'est les pharaons, la police, l'armée. Les putains de pharaons scrutés, aucun geste n'est gâché. La parole policée, la posture détachée. Le produit dans le sachet, le sourire trop lissé. Le discours officiel, la gestuelle codifiée, le confort, les rituels, les loisirs planifiés, les demeures familiales, la mémoire magnifiée, avocat qualifié, compagnie tarifée, aucune honte, même secrète, pas de retraite ratifiée, les pulsions sont brutales, sans aucune probité, en tout petit comité, la méthode est cruciale, ils veulent être immortels, et plus que momifiés, avatars virtuels, et chiens de garde officiers, leurs espaces sont somptueux, le peuple est horrifié, et leurs vices sont nombreux, leurs contraintes spécifiées, leurs discours sont pompeux, leurs attaques sont signées, bénéfices à dit peu, et là c'est consigné. Ils ont tué les dieux, ils ne leur servaient plus à rien. Retour à l'ère des pharaons. Zeus et Issa devenus larbins. Nassés comme deux vulgaires canassons. Faites place aux plus viciés des larcins. Les cracks boursiers, les stocks options. Ils ont pas prévu de passer la main. Prosternez-vous, tout le monde à genoux, c'est les pharaons. Pas de reptiles, pas de pyramides, non. C'est les pharaons. Pas de complot, rien de satanique, mec. C'est les pharaons. L'argent, le pouvoir. C'est les pharaons. La police, l'armée. Ok, les putains de pharaons. Aucune compassion, jamais aucun bémol. Les actions qui décollent, le viol, la prédation. Agence de notation, faculté, grandes écoles. Et toutes sortes de bestioles pour diverses collations. Les coups sont affinés, tennis en matinée. Journalistes fascinés, trois ministres à dîner. La cave est remarquable, le cigare en privé. Corruption nécessaire, de notables avinés. Et les lois sont refaites, et les liasses sont replètes. Et sur ces entrefaites, la confiance ravivée. Très peu d'anxiété, de petites contrariétés. Tout au plus une défaite au golf ou à l'épée. L'État est allaité, personne n'est inquiété. Madame est apprêtée, le jet est affrété. La planète dort tranquille, fait des rêves mercantiles. Compte bancaire aux Antilles, qui compte les arrêter. Qui? Ils ont tué les dieux, ils ne leur servaient plus à rien. Retour à l'ère des pharaons. Zeus et Issa devenus larbins. Nassés comme deux vulgaires canassons. Faites place aux plus viciés des larcins. Les cracks boursiers, les stocks options. Ils ont pas prévu de passer la main. Prosternez-vous, tout le monde à genoux, c'est les pharaons. Pas de reptiles, pas de pyramides, non. C'est les pharaons. Pas de complot, rien de satanique, mec. C'est les chiffres pharaon. L'argent, le pouvoir. C'est le pharaon. La police, l'armée. Les putains de pharaons.
Vous êtes toujours dans l'émission Musique en lutte. Et afin de compléter le thème que nous avons abordé, il nous semblait intéressant de vous présenter un article retraçant, disons, l'histoire du hip-hop et une question autour de la résistance qu'on y trouve. Donc c'est un article sorti en 2009 dans la revue de recherche en civilisation américaine. Il est intitulé sous forme interrogative « Le rap comme forme de résistance » et rédigé par David Diallo, professeur des universités en civilisation américaine. L'histoire du rap débuta concrètement au début des années 70 avec l'assemblage et l'enchaînement des breakbeats d'un petit groupe de DJ avant-gardistes du Bronx. À cette époque, le DJ était le personnage central, le seul architecte des rythmes insolites qui faisait virevolter les danseurs de rue sur leurs cartons ou les habitués des block parties en plein air. D'après Steven Hager, le centre de gravité de la musique rap glissa du DJ vers le MC en 1978. D'une pratique principalement instrumentale, le rap devint graduellement un mode d'expression verbale. Selon Hager, c'est à cette période charnière que les MC, qui accompagnaient les DJ en scandant des formules incitatives au public et dont les textes devenaient de plus en plus élaborés, les éclipsèrent progressivement. En distillant leurs rimes sur les breakbeats des DJ, d'abord de manière décousue, puis, dans une structure classique de type refrain-couplet, les premiers MC posèrent les bases de la musique rap comme pratique musicale et verbale. Comme le remarque le journaliste David Toup dans son Histoire du rap, les débuts discographiques du rap en tant que pratique correspondent à un panachage du verbiage des DJ de radio et des premiers MC, agrémenté de quelques expressions de b-boys en vogue parmi les jeunes du ghetto et aucunement à une quelconque rhétorique de la résistance. Cette observation s'accorde d'ailleurs avec la définition du terme « to rap » tel qu'il était employé dans la communauté africaine-américaine depuis 1870. Dans son dictionnaire de l'argot africain-américain, Clarence Major explique que s'il désignait à cette période une façon de parler ou de se comporter, le terme « rap » s'imposa dans les années 40 et 50 pour caractériser une diction rythmique accompagnée ou non de musique. Conformément à cette définition, celui qui rappait était celui qui, par l'usage des mots et de diverses pratiques langagières africaines-américaines, essayait de baratiner ses interlocuteurs par ses paroles. Comme l'indique Ulf Pochart, le terme de rap fut employé jusqu'à la fin des années 80 pour désigner toute musique qui reposait sur des beats et sur une scansion rythmique. Il note d'ailleurs que le fait que ce terme serve à désigner la musique hip-hop marque la prépondérance que l'acte verbal avait prise sur tous les autres éléments musicaux. L'absence de tout contenu revendicatif aux origines du rap démontre, conformément à ce qu'avance Grignon et Passeron, que c'est l'oubli de la domination et non pas sa résistance qui rend possible l'activité créatrice des rappeurs. Comme le précise Denis Cuche, l'oubli de la domination sociale et symbolique permet, dans les moments et dans les lieux de socialisation, une activité de symbolisation originale. Cette symbolisation, dans le cadre de la musique rap, passe par un processus de stylisation destiné à mettre en valeur la virtuosité verbale et la créativité rhétorique du locuteur. Le rap, parfois appelé hip-hop par analogie avec le mouvement à l'essor duquel il a amplement participé, consiste principalement à faire montre de la hipness d'un rhéteur. Autrement dit, rapper consiste en premier lieu à accomplir un travail important sur la forme de la manière à mettre en évidence une certaine virtuosité verbale et être dans le vent. Dans la manière de mettre en évidence une certaine virtuosité verbale et être dans le vent. Dans la mesure où la recherche de l'admiration d'un auditoire constitue la base élémentaire de ce mode d'expression, les rappeurs se doivent de soigner leur élocution, d'exhiber des qualités rhétoriques à travers des prouesses verbales imaginatives et de styliser remarquablement le contenu de leur composition, quels que soient leurs propos. À l'évidence, et comme d'autres modes d'expression ou d'autres genres musicaux émanant des classes populaires de la communauté africaine-américaine, le rap manifeste occasionnellement un caractère protestataire, voire révolutionnaire. L'étude de certains textes de Public Enemy, par exemple, dont le célèbre titre Fight the Power, symbolise précisément cette logique de résistance et qui, dans le morceau Burn Hollywood Burn, répliquent de manière virulente à la diffusion de sens communs racistes qui maintiennent une forme de pouvoir sur les populations noires témoignent de cette dimension incontestable. Plusieurs morceaux de KRS-One, Stest, Sonic, Blackstar et de nombreux autres artistes engagés dont les vertus conscientisantes sont habituellement invoquées, de même que des paroles d'artistes auxquelles une étiquette rappeur gangsta est attribuée malgré l'hétérogénéité de leur production et l'ambivalence de leur discours, rendent compte de la dimension protestataire que peuvent parfois prendre cette musique. En effet, nombreux sont les rappeurs, vétérans ou nouveaux venus, qui réfutent le temps d'une chanson, d'un album ou d'un couplet, une hiérarchie raciale historique, exaltent leur négritude à travers un discours essentialiste et dénoncent des inégalités sociales auxquelles doit faire face une fraction importante de la communauté africaine-américaine. Des rappeurs comme Ice Cube, Talib Kweli, Mos Def, Dead Prez et tant d'autres présentent régulièrement des textes contestataires et dénoncent inlassablement le climat raciste de leur pays. Voilà, maintenant va venir notre dernière rubrique pour vous présenter les événements à venir. Je laisse la place à Adrien.
Alors bonsoir, maintenant je vais vous présenter les événements musicaux et militants proposés par Musique en Lutte. Alors rendez-vous le 27 janvier à La Parole Errante, à 15h, de 15h à minuit, pour la deuxième édition des soirées grève partie. Cet événement est à l'initiative de l'Assemblée féministe Paris-Banlieue pour la grève générale féministe du 8 mars 2024. Pour l'occasion, une table ronde, une scène ouverte et pour finir, des DJ sets. La soirée est à prix libre. Ce week-end du 27 janvier, à l'espace autogéré des Tanneries de Dijon, organise une soirée consacrée au hip-hop politique, avec comme invités Victor and the Haters, Nergal, Tina et pour finir, Nick Hughes. L'événement est organisé par Maloka Dijon, qui est un collectif punk créé en 1989. Toujours aux Tanneries à Dijon, le samedi 3 février à partir de 19h, se tiendra une soirée de soutien pour la caisse de grève féministe du 8 mars. En prévision, un bingo de la grève, un concert de l'Essulidé, un bal folk et pour finir, à partir de 23h30, des DJ sets de reggaeton, techno ou encore d'eurodance, pour le plus grand plaisir du public. L'entrée est de 5 euros. Samedi 3 février aura lieu la 11e édition des soirées punk Rackham is Burning, qui aura lieu au Rackham à Brétigny-sur-Orge. Cette année, ce sont des Riot Girls qui viendront mettre le feu au Rackham. Gros son et méga tough en prévision avec The Lizard, The Foxy Ladies et The Mercenaries. L'entrée, plein tarif, est à 11 euros. Toujours à La Parole Errante, le 10 février aura lieu un gala de soutien à la bibliothèque anarchiste Jargon Libre, qui par choix ne touche aucune subvention tout en ayant un loyer important. C'est pourquoi ils organisent une soirée de fête. Au programme, une exposition sur deux mouvements des années 1950 et 1960, le MIAJ, mouvement indépendant des auberges jeunesse, et des JL, les jeunes libertaires. Il y aura des interventions, des concerts orientés punk et électro, analogique foufou, des tables des éditions et revues camarades. Il y a aussi la possibilité de s'asseoir et de manger un repas chaud, l'entrée est à prix libre. Alors voilà, maintenant c'est fini. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les événements sur notre site musique en lutte.noblogs.org. Donc nous arrivons à la fin de l'émission Musique en Lutte. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve le jeudi 22 février pour notre 6e émission. Bonne soirée à vous.
Parce qu'on s'emmerde ici, il prenait son trépas à cœur cette fois-ci. Et les bons hommes chargés de la levée du corps ne chantaient pas non plus Saint-Éloi bande encore. Les...
Epsilonien, epsilonienne, pinodien, pinodienne. On va mettre un morceau. Non, on va mettre un jingle. C'est ça, on va mettre un jingle. Ils sont les jingles. Hop, jingle. Bon, on va passer le jingle de début, puisque ça a déjà commencé. On va faire un jingle de souscription. Vous êtes sur Radio Liberté à 89.4 FM. C'était Psylonia Mix qui débute. Vous êtes donc aussi en DAB+, maintenant. En DAB+, sur Radio Liberté. Vous êtes aussi en DAB+, via Pinode, notre partenaire Pinode. Vous allez sur pinode.org et vous avez le lien direct. Et pareil pour Radio Liberté. Pour la région parisienne étendue, et Pinot, c'est aussi pour la région de Mulhouse. Alors ce soir, je vais balancer le jingle, tiens, d'abord. Et puis après, on se parle.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site rl.fédération-anarchiste.org.
Alors donc, oula, poum, presque un Larsen là. Donc ce soir, une émission centrée autour d'une figure de l'underground français, on peut appeler ça comme ça, Luc Mariani, qui aurait, bon c'est toujours un peu tard de dire ça, mais qui aurait mérité beaucoup plus, parce que c'est hyper bien quoi, et qu'on sort, donc ses acolytes, Pierre de Mouron, Zach Spitron, André Vio, Jean-François Papin aussi bien sûr, avec qui donc il avait l'habitude de travailler soit sur ses disques, soit au sein d'un groupe qu'il avait formé avec ces gens-là, qui s'appelait Rock Critics. Donc Luc Mariani a produit une petite dizaine d'albums entre 80 et 86, puis après il a disparu des radars, et puis voilà, il y a eu des rééditions, des inédits qui sont sortis depuis une dizaine d'années. C'est vraiment un autodidacte qui... Ça part du rock, ça va vers de la folk. Il a fait une incursion aussi avec le GRM, donc il y a des pièces un peu plus musique concrète. Et il y a de la synthwave. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. Des choses plus néoclassiques, presque ambiantes. C'est très riche et de très bonne facture. Donc, bonne écoute.